Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là.
On fait, on donnait de leur sueur, donnait de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, il est 19h02, c'est le Canu Info du lundi avec la rédaction de Canu Info du lundi sur Radio Canu, la
plus rebelle des radios.
102.2.
Alors aujourd'hui, à l'international, on commencera par ce qui s'est passé en Syrie, puis la frappe américaine de notre brave Donald Trump. On ira ensuite du côté de l'ETA et des armes que l'ETA a livrées à la police française. Et on terminera l'international par la Suède et la nouvelle mise en place d'un service militaire.
Au national, on ira vous parler du plus cool de nos candidats, à savoir Macrotte. Et on fera un petit tour du côté des colonies pour suivre le mouvement social en Guyane.
Au local, on parlera kebab, et oui, mais on garde ça pour plus tard.
Et le dossier sera consacré aux Irlandes.
Merci. Et donc, Trump a encore frappé. C'est le cas de le dire. Les États-Unis sont spectaculairement passés à l'attaque contre le régime de Bachar al-Assad jeudi dernier, là, en début de soirée, avec des frappes militaires contre une base de l'armée syrienne située près de Homs. Donc, c'est 50 missiles Tomahawk.
59,
pardon. Merci pour la précision. Il faut remonter le micro, paraît-il. Voilà. Donc 59 missiles Tomahawk. Le bombardement à l'arme chimique d'un village tenu par les rebelles syriens a été donc à Khan Sheikhoun mardi et imputé au régime de Damas, a fait basculer la nouvelle administration. Et Trump, il a dit « Aucun enfant de Dieu ne devrait avoir subi une telle horreur ». Pourtant, les enfants américains, ils subissent l'horreur tous les jours en écoutant leur président,
oui,
chéri.
Et puis on a parlé dans une émission la semaine dernière, me semble-t-il, de civils tués, dont des enfants, à la sortie d'une mosquée par l'armée américaine qui s'est un petit peu loupée en pensant viser des terroristes, mais elle a visé des civils.
Voilà. Ouais, mais des civils qui sortent d'une mosquée, c'est pas loin des terroristes.
Vrai, il faut qu'il révise son catéchisme également, parce que les enfants de Dieu, il n'y en a eu qu'un, c'est Jésus, et il a eu subir ce que les Syriens subissent aujourd'hui. Oui. Donc bon.
Ce sont des considérations qu'on peut partager ou pas. Rappelons quand même que Donald Trump avait enjoint publiquement au président Barack Obama de ne pas intervenir en Syrie en 2013 après le recours imputé au régime à des armes chimiques dans les banlieues de Damas en août. Et oui, Trump, président très décrié par certaines élites américaines, commence enfin à bien se comporter, à bien se tenir, enfin, comme ses prédécesseurs. Donc c'est une action symbolique, davantage destinée à adresser un message d'avertissement à Damas, Moscou, Téhéran, voire Pyongyang, qui a bousculé le rapport de force sur le terrain. C'est une petite action peu coûteuse, pas très risquée, et l'objectif est en fait ne pas détruire, c'était pas de détruire la base, parce qu'il aurait fallu un nombre de missiles bien plus élevé, et les bombardements chimiques qui sont pour l'instant attribués au régime de Damas, qui est pourtant censé s'en être débarrassé de l'intégralité de son arsenal chimique. En plus, il y a eu des vérifications par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ils avaient bien fait un rapport comme quoi tout avait été détruit. Donc soyons prudents. En 2003, les armes de destruction massive avaient déjà servi de prétexte à George Bush pour plonger l'Irak en enfer. En 2013, on a déjà accusé Damas, mais l'enquête officielle de l'ONU, pourtant fort infiltrée par les USA, a conclu à l'impossibilité de désigner le camp responsable. Et il faut rappeler que chaque guerre est précédée d'un grand mensonge. Vietnam, Panama, Irak, Yougoslavie, Palestine, Afghanistan, Libye, Syrie, Côte d'Ivoire. C'est une technique pour chauffer l'opinion. Il convient de ne pas se laisser manipuler, mais de réfléchir. Car quel mobile pour Damas ? N'est-ce pas l'opposition en difficulté qui verrait son seul salut dans cette intervention internationale ? Donc l'armée US bombarde la Syrie d'Al-Shayrat, la base syrienne d'Al-Shayrat, d'où seraient parties les armes chimiques. Attendez, vous protestez contre l'emploi des armes chimiques, mais vous bombardez un entrepôt d'armes chimiques au risque de provoquer une grande pollution ? Est-ce bien logique ? Les faits surviennent au moment où la coalition US-Europe est accusée d'avoir tué plus de 700 civils à Mossoul et Raqqa. Deux poids, deux mesures ? Diversion. Le 17 mars, les Syriens ont abattu un avion israélien qui violait l'espace aérien et soutenait les terroristes autour de Palmyre. Quels médias enquêtaient sur cette affaire ? Quoi qu'il en soit, la guerre rapporte aux marchands d'armes qui, malgré les promesses de tous les candidats en campagne, trahit quand il se transforme en va-t-en-guerre une fois élu, comme toujours. Et c'est la guerre, c'est une agression de part et d'autre. Et en fait, bien sûr, toujours, il y a des gens qui ont leur intérêt là-dedans. Voilà.
Ce qui est un peu dommage dans le conflit syrien, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à réduire entre finalement un grand méchant, Bachar, et des illustres inconnus qui le combattent. On ne parle plus de pétrole, on ne parle plus de transfert des matières premières, on ne parle plus. Du contrôle des détroits.
On parle plus de la révolte de 2011 des populations syriennes issues des mouvements arabes notamment et du fait que Bachar el-Assad a balancé plein de djihadistes, les a fait sortir des prisons pour aller niquer la gueule au mouvement social et aux ouvriers. On parle plus de tout ça, effectivement, tout ça. Par contre, ce dont on pourrait parler, c'est effectivement des États-Unis et de ces interventions toujours plus impérialistes les unes que les autres.
Mais il n'y a pas que les États-Unis d'ailleurs.
Bien sûr, la France est dedans.
Ah ouais, la France est dedans.
Et bien dedans.
Parce que ces frappes, quand même, elles interviennent après, par exemple, le Canard enchaîné est publié apparemment la décision d'envoyer 30 000 Américains au sol assez prochainement. Donc voilà.
Alors,
sans transition.
En tout cas, s'ils nous déclenchent une bonne guerre délocalisée, ils n'en souffriront pas trop. Les gens comme Donald Trump, tout ça. Par contre, il y aura du business à se faire, quoi.
C'est ça.
Comme toute guerre. Alors, justement, parlons d'armes retrouvées, données par l'ETA. L'ETA, on a fait un peu le buzz ce week-end sur les armes de l'ETA, livrées par l'ETA. À la justice française. Alors déjà, l'ETA, qu'est-ce que c'est hein ? C'est Euskadi, Taas, Katasuna, donc ce qui veut dire Pays Basque et Liberté. C'est une organisation armée basque d'inspiration au moins à l'origine marxiste, fondée en 1959 en opposition au régime franquiste. Le symbole de l'ETA, c'est un serpent qui enroule une hache. Alors, dès 1959, les membres de l'ETA, ils affirment leur volonté d'indépendance du Pays Basque par l'action révolutionnaire et la lutte armée, et la lutte contre le franquisme. À ses débuts, mais également pour une bonne partie de son existence, l'organisation a une bonne popularité auprès de la gauche et l'extrême gauche au Pays Basque, en France et en Espagne, pour son opposition frontale à la dictature d'extrême droite de Franco, qui, rappelons-le, va durer jusqu'au milieu des années 70 et même jusqu'en 1977 pour ses successeurs, mais également pour ses prises de position anti-impérialiste, l'ETA. En 1964, sous l'influence de militants maoïstes, elle adopte le principe de la guerre révolutionnaire. Les attaques à main armée augmentent. Des policiers et des membres de l'ETA sont tués de part et d'autre. En 1970, un procès dont on a beaucoup entendu parler à l'époque en France comme en Espagne, le procès de Burgos, mascarade de justice expéditive où 16 membres de l'ETA devaient être condamnés à mort. L'opposition à ces condamnations a largement dépassé l'Espagne, hein, puisqu'on l'a vu en France mais également ailleurs. Hein. En France, le mouvement révolutionnaire s'est énormément mobilisé, agité par exemple. Un certain Jean-Paul Sartre avait écrit d'ailleurs un texte à ce sujet-là. Et en Espagne, ce procès a aussi été une des prémices de la chute du régime franquiste. Suite à cette mobilisation, 6 prisonniers vont éviter la peine de mort. Mais c'est pour dire que les prisonniers, les membres de l'ETA, subissent des régimes spécifiques. Alors à partir de 1974, on accélère, l'ETA se divise en deux branches, l'ETA militaire, dite ETA-M, et l'ETA politico-militaire, dite ETA-PM, qui subordonne la voie militaire à la voie politique, entre autres. Et cette ETA politico-militaire, elle s'autodissout en 1982, hein, et passe directement vers une coalition nationaliste de gauche et arrête la lutte armée. Mais il reste toujours l'autre ETA, qui subit dans les années 80 et 90 des attaques du GAL, le groupe antiterroriste de libération, ayant pour but donc de les assassiner, qui sont drivés par des anciens franquistes à l'œuvre avec l'aval du gouvernement espagnol et du gouvernement français. On accélère toujours. En 1998, l'ETA annonce une trêve unilatérale. Alors, de cette trêve unilatérale, il y a des pourparlers et énormément de négociations, notamment sur un sujet qu'on va aborder juste après, c'est-à-dire les conditions carcérales des prisonniers basques. Et alors, voilà ce que nous dit les médias pour ce week-end. Hein. La journée, donc samedi, a commencé à huis clos à 8h du matin dans le salon d'honneur de la mairie de Bayonne. En présence du maire UDI de la ville, Jean-René Etchegaray, les artisans de la paix, entre guillemets, hein, parmi lesquels des membres du Vatican, dont certains qui avaient déjà œuvré pour le désarmement de l'IRA, on parlera d'ailleurs de l'IRA en Irlande tout à l'heure, dans cette réunion, il y a 8 chemises cartonnées de couleur bleue avec les coordonnées GPS et les photos de 8 caches d'armes dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque et dans le Béarn qui sont données. Selon ces informations, une partie de cet arsenal a été récemment déplacée sans que les polices françaises et espagnoles n'interviennent. Au total, donc, cet arsenal compris près de 3,5 tonnes d'explosifs, des détonateurs, des retardateurs, des dizaines d'armes, de poings et d'épaules. Elles ont été réceptionnées par le président de la Commission internationale de vérification, le Sri Lankais Ram Manikaligam. Ce document était remis dans la foulée au procureur de la République de Bayonne, Samuel Buelta Simon. Dans le même temps, des groupes d'artisans de la paix, parmi lesquels un certain José Bové, un député européen d'Europe Écologie Les Verts, sécurisaient les lieux en attendant l'arrivée des équipes de démineurs, des gendarmes et de policiers, la DGSI, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. François Molins, le fameux, toujours sur les questions d'antiterrorisme, procureur de Paris, en charge de cette lutte antiterroriste, a supervisé les opérations de police en cours sur les caches d'armes. Une enquête préliminaire confiée à la SDAT, la sous-direction antiterroriste, et à la police judiciaire de Bayonne, a été ouverte. Alors, d'ailleurs, suite à ces découvertes, au fait que l'ETA ait clairement livré ses caches d'armes, hein, il y a eu quand même un rassemblement de 20 000 personnes à Bayonne, ce samedi, avec plusieurs prises de parole. Bon, alors 20 000 selon les organisateurs, 6 000, 7 000 selon la police, bien sûr, hein, mais qui actaient le désarmement de l'ETA. Alors, pourquoi est-ce que l'ETA a décidé de donner ses caches d'armes.
Unilatéralement.
Hein. Pourquoi est-ce que l'ETA a décidé ça? Eh bien, principalement pour des questions de détention carcérale, de mauvaise détention carcérale des prisonniers basques. Car
d'acharnement carcéral.
Les prisonniers basques, c'est un acharnement carcéral. L'administration pénitentiaire, via le ministère de la Justice et donc l'État français, mais également espagnol, s'acharne sur ces prisonniers basques. Alors, il y a un collectif de prisonniers politiques basques, hein, qui est en lutte depuis déjà un bon paquet d'années. Et voilà ce qu'il explique, hein, c'est que l'intégralité des prisonniers basques sont des DPS. Alors, qu'est-ce que sont les DPS? C'est des détenus particulièrement surveillés. Un statut qui est réservé aux détenus les plus dangereux, ou considérés comme les plus dangereux. Et c'est un régime dérogatoire du droit commun. Donc quand on est DPS, eh bien, on a des privations de liberté supplémentaires que les autres prisonniers n'ont pas. À ce titre, par exemple, Ils sont incarcérés dans les prisons les plus éloignées possibles de leur famille. Pourquoi ? Pour les empêcher de voir leur famille, pour les isoler, pour les attrister, pour les casser en fait. Hein. Ces objectifs de maintenir en tant que DPS les prisonniers basques dans les prisons françaises, c'est pour les casser. C'est pour leur dire vous avez été terroriste et quelles que soient les peines que vous avez prises, eh bien, on va continuer à vous casser. D'ailleurs, parmi les 78 prisonniers basques en France, 25 remplissent les conditions pour bénéficier de la liberté conditionnelle. Mais elle est systématiquement rejetée dès qu'une demande est faite, alors que bon nombre de prisonniers basques, qui sont toujours DPS, se comportent correctement en prison, hein, c'est-à-dire qu'ils tiennent la ligne qu'on leur demande de tenir pour pouvoir bénéficier de ces libertés conditionnelles. Et pour autant, ils ne les obtiennent pas. Donc ils ne peuvent toujours pas sortir de prison. Et il y a d'ailleurs un prisonnier basque qui est particulièrement malade et qui a beaucoup révolté les Basques. Hein. Donc c'est Ibn Fernandez Iradi qui est incarcéré à Lannemezan, qui est très malade. Alors voilà ce que dit son avocate. Deux expertises médicales ont conclu que son état de santé était incompatible avec une incarcération. Une troisième expertise a été demandée alors que la loi n'en prévoit en principe qu'une. Cette dernière a conclu qu'il pouvait rester en prison à condition de recevoir des soins, ce qui dans les faits n'est pas le cas. L'avocate s'est tournée vers la Cour de cassation, qui a finalement renvoyé l'affaire une nouvelle fois devant une chambre d'application des peines, qui devait se prononcer en novembre, mais qui évidemment s'est prononcée pour refuser la sortie de ce prisonnier basque très malade. Alors, d'ailleurs, à ce titre-là, à Bilbao récemment, hein, janvier 2017, 80 000 personnes, principalement basques, ont manifesté en soutien aux prisonniers politiques basques, demandant des amnisties, dénonçant leurs conditions de détention et dénonçant ceux et celles qui maintiennent en prison des prisonniers et des prisonnières qui ont depuis longtemps accompli la peine imposée par les tribunaux. Voilà pourquoi aujourd'hui l'ETA a livré ses armes. Alors il est plus que temps effectivement que les prisonniers basques ne soient plus des DPS, hein, des détenus particulièrement surveillés d'une part, et d'autre part que ceux qui ont la possibilité de sortir par des libertés conditionnelles eh bien, puissent sortir. Donc libération pour les prisonniers basques. Voilà ce qu'on pourrait conclure.
C'est bien.
Alors, dans le chapitre du terrorisme, on sait que la Suède a été frappée au plein cœur de sa capitale, Stockholm. Stockholm, c'est bien la capitale de la Suède, ouais.
Ouais. Mmh.
Et ce qu'on sait moins, c'est que les Suédois avaient totalement anticipé cet attentat et avaient décidé, justement pour s'en préserver, de réinstaller le service militaire obligatoire. Donc la Suède rétablit le service militaire obligatoire, ce qui peut sembler curieux de la part d'un pays qui normalement est neutre. Alors l'explication qu'il donne à la mobilisation de 4000 jeunes hommes et jeunes femmes l'année prochaine qui vont apprendre à tuer et à se faire tuer, eh bien c'est que les agissements de Donald Trump au sein de l'OTAN et les mouvements
c'est
de troupes.
C'est un truc létal ou non létal? Parce que tu sais, maintenant, ils font des services militaires non létals, où tu n'apprends pas à tuer et à être tué.
Peut-être, qu'ils apprennent, ouais, peut-être qu'ils apprennent qu'à se faire tuer. Bon, je ne sais pas.
Mais tu sais, ils apprennent à défendre des bases, à faire des trucs d'informatique, de machin comme ça. Bon.
En tout cas, le prétexte de l'État suédois pour rétablir ce service militaire, c'est l'inquiétude que leur donnent les Russes. Et le sentiment qu'ils ont d'être abandonnés par les Américains, et notamment par Donald Trump. Alors peut-être que les dernières retombantades à coup de tomahawk de Trump vont les rassurer sur ce plan-là.
Ah bah certainement.
En tout cas, on a la Suède qui rétablit le service militaire. Alors ce rétablissement, malheureusement, c'est le premier en Europe, mais il est réclamé et revendiqué quand même par un paquet de forces politiques qui toutes cautionne aujourd'hui ce qu'on appelait hier le réarmement. Alors que ça soit les contrats de la France à l'étranger ou que ça soit l'Allemagne par exemple qui produit en série ou également le budget américain aux armées qui a été augmenté encore une fois, on assiste aujourd'hui, et on le dit pas assez, à un réarmement massif et continu des puissances impérialistes. Et aujourd'hui, à partir du 2 mars, on observe également un retour de la conscription nationale et des armées dites régulières. Donc malheureusement, les Suédois ne sont pas les seuls à y avoir pensé, même si pour l'instant ils sont les seuls à l'avoir fait. Et en France, on a le plaisir d'être extrêmement gratiné par la proposition de Macron de rétablir le service militaire obligatoire en France. Et ce n'est pas la moindre de ces conneries.
Ce qui quand même, je veux dire, en 1979, ceux qui sont nés après 1979 ne devaient plus le faire. Ça voudrait dire qu'ils voudraient le rétablir pour ceux qui sont nés à peu près, après les années 2010, je crois, ou après les années 2000 en tout cas. Donc c'est un beau retour en arrière bien réactionnaire que nous prévoit notre petit Macron préféré.
Ça aussi ça se discute, hein. Mais en tout cas on passe au national avec un sujet un peu présidentiel. Alors ici à Radio Canu, comme on est obligé d'être équitable envers tous les candidats, si on en dit du bien, on va pas dire du bien de candidat. Puisque si on en dit du mal, en fait, on n'est pas obligé d'être équitable.
C'est le CSA qui veut ça, et nous, comme on aime bien ces instances.
Voilà, on a tiré au sort et c'est tombé sur Emmanuel Macron. Bon, on en a déjà un peu parlé, il se trouve que ça tombe bien en fait.
Il n'y a aucun bien à dire.
Bah non, on a pourtant cherché, hein, là j'ai 3 pages devant moi, c'est dur. Hein. Et donc Emmanuel Macron, on va passer sur les trucs de censure à la télé, peut-être que vous avez entendu parler qu'il a censuré une émission qui disait du mal de lui. Oh là 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 là, la première émission qui disait du mal de lui, il l'a fait censurer, donc elle a été supprimée de l'antenne sur LCI.
Bah nous, donc, il ne va pas nous censurer nous.
Non, on est trop petits. Et il avait donc Macron, donc bon, quand même, c'est quand même quelqu'un déjà qui avait tenté de frauder l'ISF qui veut supprimer, c'est logique quelque part, hein, pour les revenus financiers.
C'est pour ses potes,
grâce à une déclaration de patrimoine sous-estimée, mais il n'y a pas eu de saisie du parquet financier. Donc là, quand il y a les déclarations de patrimoine des différents candidats, il est aussi riche que Poutou. C'est le dernier à égalité avec Poutou. C'est comme un pauvre gars, quoi. Mais un pauvre gars qui a quand même gagné 3,4 millions d'euros bruts entre 2009 et 2016 quand il bossait pour Rothschild. Il a refinancé en 2012 son ancien crédit 400 000 ou 350 000 euros en le faisant passer à 600 000 euros. Alors qu'il croulait sous l'argent, il a un livret de développement durable de 40 000 euros, alors que les LDD sont limités à 12 000 euros. Ça sent le Panama, les îles Caïmans, ça sent la triche, comme dirait Philippe Poutou. Et donc, en fait, cette connivence, ce mec un peu qui sent un peu l'embrouille, il est forcément pote.
Qui a piqué la femme d'un banquier, il faut le rappeler quand même.
Ouais.
Ça. À la limite, on s'en fout.
Ouais, à la limite, on s'en fout. Du coup, moi, j'avais décidé de pas parler de ce genre de choses. Mais en fait, quand il a ouvert, quand il a construit son mouvement En Marche, là, et ben en fait, on s'est très vite aperçu qu'il était domicilié chez l'un des directeurs de l'un des principaux clubs patronaux, l'Institut Montaigne. Donc, l'Institut Montaigne, c'est un think tank, c'est une boîte à promouvoir des idées néolibérales comme le gaz de schiste, la privatisation de l'assurance maladie, l'augmentation du temps de travail, le départ à la retraite à 63 ans, c'est un de ces... Et le président de cet institut Montaigne, c'est un mec qui a été directeur général du groupe d'assurance AXA de mai 2000 à août 2016, avec 3 millions de revenus annuels, hors revenus du capital. C'est aussi le French American Foundation, institut connu pour être un cheval de Troie du libéralisme américain dans la société française. C'est aussi la présidence du comité de direction du très opaque groupe Bilderberg. Donc voilà, Macron, c'est aussi des connivences avec Servier, le laboratoire commercialisant le Mediator, et connu pour ses techniques occultes de lobbying. Et il s'avère que c'est l'inspirateur principal du volet santé du programme. Donc ça fait rêver. Macron, c'est bien le candidat des think tanks, des lobbies, du management, du CAC 40, des États-Unis. Il multiplie Et donc, en fait, oui, voilà, en fait, il y a des dons privés qui se multiplient et donc la campagne, elle est extrêmement dotée. Et les donateurs, bien entendu, ils ne veulent pas donner la liste parce que forcément, on verrait un peu ce système de connivence. Et puis après, dans sa com, Macron, il avance masqué. Il est anti-système, il a le sourire. Il a fait un bouquin qui s'appelle « Révolution », qui est une espèce de... poème magnifique et géant, une ode à je ne sais quoi.
Au grand capital, probablement.
Non, même pas, en fait. C'est pour avoir feuilleté quelques pages, c'est juste n'importe quoi. La quatrième de couverture, là, là où t'as pâte un peu le lecteur, c'est un portrait en couleur de lui. Grand format.
Il n'y a même pas marqué Macron ?
Si, sur le devant, mais pas derrière. Et donc la com, elle est omniprésente et elle joue un rôle énorme et elle s'applique à ratisser le plus large possible sans rien dire, ou alors en s'appliquant à réaliser des records de langue de bois. Des trucs où on comprend rien, c'est digne de Jean-Claude Van Damme. Je vais vous faire une petite citation. C'est une aspiration constante à l'universel, c'est-à-dire cette tension entre ce qui a été et la part d'identité. Cette ipséité stricte est l'aspiration à un universel, c'est-à-dire ce qui nous échappe.
Ça, c'est Jean-Claude ?
Non, ça, c'est Emmanuel.
Ah, d'accord.
Et je vous en fais une autre. L'identité, c'est A égale A. Mais il n'y a pas que des A dans cette société. Il y a au moins des A et des B. Et je n'ai pas envie que A égale B.
Ah, ça, c'est Jean-Claude ?
Non, ça, c'est Emmanuel aussi. Okay. On aurait pu faire un blind test. Mais par contre, quand il essaye de dire des trucs et qu'en fait, il est capable de vraiment du pire. Hein. Là, je vais vous citer 24 déclarations d'Emmanuel Macron. Courte et heureusement, mais ça fait vraiment flipper. Alors,
j'y vais. 24, t'es sûr?
Wow. Ouais. Non, mais c'est un marathon.
Préparez-vous.
Bon. Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre, j'essaierais de me battre d'abord.
Merci Jean-Claude.
Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires.
Ouais, grave. Abruti.
Bien souvent, la vie d'un entrepreneur est bien plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut pas l'oublier. Il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties.
Wow. Ok.
Dans le doux, il a dit, il y a dans cette société une majorité de femmes, mais il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées.
D'accord.
Ensuite, le libéralisme est une valeur de gauche. Bon, ça c'est léger quoi. Ensuite, il a dit, les salariés français sont trop payés. Les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus si les syndicats majoritaires sont d'accord.
Ah oui, travailler plus pour gagner moins.
Bah, jusque-là, la loi Macron, elle est dans son sens.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ensuite, le FN est toute chose égale, par ailleurs, une forme de Syriza à la française, d'extrême droite.
Wow.
Ouais.
Il a dit aussi, je n'aime pas ce terme de modèle social, logique. Il a dit, être élu est un cursus d'un ancien temps. Il a dit, vous n'avez pas à me faire peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Bon, ça... Il y a eu des slogans pendant le travail qui étaient là-dessus.
Ouais, tu peux devenir copain avec un milliardaire aussi.
Il a dit, les Britanniques ont la chance d'avoir eu Margaret Thatcher.
C'est vrai.
Il a dit, je dis aux jeunes, ne cherchez plus un patron, cherchez des clients. Il a dit, la France est en deuil d'un roi. Il a dit, je suis pour une société sans statut. Il a dit, je ne suis pas là pour défendre les jobs existants. Il a dit, le chômage de masse en France, c'est parce que les travailleurs sont trop protégés. Il qualifie ceux qui, au sein du PS, s'opposent à sa loi, 308 articles réactionnaires, comme on sait, de foyers infectieux ou de fainéants. Il a dit, je pense qu'il y a une politique de fainéants et il y a la politique des artisans. Il a dit, chaque candidat qui sera investi signera avec moi le contrat de la nation. Il s'engage à voter à mes côtés les grands projets, à soutenir mon projet. Pas de frondeur. Il a dit, je vais faire un CICE durable. Il a dit, je ne vais pas interdire Uber et les VTC, ce serait les renvoyer vendre de la drogue à Steins.
Wow.
Il a dit, je compte sur vous pour engager plus d'apprentis, c'est désormais gratuit. Attendez. Je compte sur vous pour engager plus d'apprentis, c'est désormais gratuit quand ils sont mineurs.
Bah ouais, grâce à qui?
Grâce à lui. Vu la situation économique, ne plus payer les heures supplémentaires, c'est une nécessité. Il a dit « La gauche classique est une étoile morte. L'idéologie de gauche classique ne permet pas de penser le réel tel qu'il est. » Il a dit « C'est une erreur de penser que le programme est le cœur d'une campagne électorale. La politique, c'est mystique. » Et il a dit « 35 heures pour un jeune, ça n'est pas assez. » Bon, je vais m'arrêter là. J'ai pas tout épluché, mais c'est pas mal.
Non, ouais, c'était bien. Ça prouve quand même pas mal ce que les travailleurs et les chômeurs, qui sont des travailleurs aussi, hein, vont se prendre dans la gueule. Enfin, ce qu'on va se prendre dans la gueule... pour le prochain quinquennat, voilà. Si c'est lui qui est élu, avec ou sans majorité parlementaire, hein, de toute façon.
Après, les Américains, quand ils ont commenté quand même la calotte que Clinton, elle s'est prise par Trump, ils ont essayé de trouver une explication. Il y a un concept sympa qui a émergé, et c'est celui d'hypercentre. Et c'est vrai que Macron, il est fort, tu vois, parce qu'il arrive quand même à nous faire croire que finalement, c'est le seul type un peu mou, et pour le statu quo, alors qu'il a vraiment prévu. De faire table rase de toutes les luttes sociales, de tous les acquis sociaux qui sont construits dans ce pays depuis 70 ans. Quoi.
Non, mais c'est un nouveau dispositif au service de la bourgeoisie et c'est pas loin du fascisme, en fait, ce genre de concept.
Macron, c'est une arme de destruction massive, clairement. Et il illustre parfaitement l'adage qui dit « plus c'est gros, plus ça passe ».
On va parler de la Guyane un petit peu. vite fait.
Alors, très très vite fait. Eh bien, en Guyane, malheureusement, ça bouge sans bouger. Donc le mouvement social, ils sont toujours très mobilisés, mais les premières dissensions commencent à apparaître. Et les camarades qu'on a réussi à contacter en Guyane et qui sont pas franchement partie prenante des mobilisations et qui sont plutôt, au contraire, qui font partie des chômeurs, des travailleurs de force, des sans-papiers, des immigrés, commencent à regretter le fait que les mêmes personnes qui possèdent les petites PME, les petites entreprises, qui bénéficient des emplois apportés par la métropole, etc., soient les mêmes qui les empêchent de circuler, d'aller voir leur famille, de s'investir également sur la mobilisation. Donc voilà, on a un mouvement social qui commence à se diviser, notamment parce que ceux qui ont été désignés par les médias comme ces leaders, eh bien, n'arrivent pas dans leurs propositions à motiver et à emmener avec eux l'essentiel du peuple guyanais qui ne leur fait pas confiance.
Après, ce qui est sûr, c'est que la grève d'aujourd'hui se radicalise d'une certaine manière, hein, et qu'il y a une bonne partie des services publics, hein, et même du secteur privé qui sont en grève, et que les différentes composantes bataillent un peu les unes contre les autres dans ce mouvement, parce qu'on l'avait déjà dit dans les émissions précédentes, hein, il y a bien plusieurs composantes, dont certaines qui sont à la limite d'être réactionnaires, quand d'autres sont beaucoup plus progressistes et portées sur le social.
Et donc on espère que la grève va porter les fruits qu'elle porte généralement et justement contraindre les éléments réactionnaires du mouvement justement à se désolidariser et à appeler la fin du mouvement, pendant que ceux qui ont intérêt à ce que justement il y ait une vraie grève et une Guyane plus indépendante, bah, eux vont s'accrocher et du coup vont pouvoir faire émerger un mouvement plus intéressant qui ne demandera pas que des sous, mais qui demandera une vraie politique de décolonisation.
On va terminer les brèves avant le dossier sur un sujet local, gastronomique. C'est pas très souvent qu'on fait ça, mais là c'est un petit bonus, car Oushkoudar, le kebab number one de Lyon, a été déclaré par le Petit Paumé meilleur kebab de Lyon avec 5 étoiles, s'il vous plaît.
Ouais, bravo Oushkoudar. Voilà. Bravo.
Donc, voilà. Un kebab qui nous arrive de fréquenter régulièrement.
C'est un kebab qui est rue de Marseille, hein, on peut
rue de Marseille.
Dire. Hein, puis on vous conseille
en face de la librairie Rive Gauche.
Et en face de l'église Saint-André, pour bien le situer.
Il y a de la feta là-bas, c'est pas souvent qu'il y a ça dans des kebabs. Supplément feta, je vous conseille, c'est excellent.
Feta, ouais. C'est ouais.
Et puis c'est pour la bonne cause.
Et puis c'est des copains.
Voilà. Et puis il n'y a pas de néon rose, il n'y a pas de photo crados, le service est absolument superbe. La viande, même les végétariens s'y laissent tenter.
Ah, mais moi j'y vais, mais je mange pas de viande, mais j'y vais parce que c'est un chouette lieu. Alors, du coup, là, on va vous parler de l'Irlande via notre dossier et on va se faire une petite pause musicale aux couleurs d'Irlande, c'est-à-dire. C'est toujours Radio Canu, il est 19h36, 102.2, et voilà le dossier sur l'Irlande.
Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler d'un petit pays.
C'est vrai, il est petit.
Il est petit, 70 000 km². Et si on vous parle de ce pays aujourd'hui, c'est parce que c'est l'éphéméride et le jour anniversaire d'un accord assez mal nommé, l'accord du Vendredi Saint, qui a eu lieu le 10 avril 1998 et qui a été ratifié d'un côté par l'Angleterre et de l'autre côté par les principales forces politiques d'Irlande du Nord, qui ont accepté une solution dite politique pour mettre fin à 30 années, de 1969 à 1998, à 30 années de troubles sanglants qui ont fait environ 3500 morts. Alors, pour en arriver ici, pour en arriver à cet accord, dans une petite partie d'ailleurs, qui n'est pas là, qui est celle de l'Irlande du Nord, eh bien, on va remonter le fil du temps pour justement évoquer ces pays que sont les Irlandes. Alors, c'est un pays qui a été occupé à peu près il y a 10 000 ans, dont on a quelques traces vite fait, pas d'art pariétal, des pointes de flèches, pas grand chose, et dont la culture la plus ancienne, c'est-à-dire le gaélique qu'on retrouve aujourd'hui, aurait été apportée par l'immigration celte, qui, comme vous le savez, ont traversé toute l'Europe en partant de l'Inde pour justement finir en Irlande. Alors ensuite, il y a les Vikings qui mettent tout à feu et à sang et qui créent, par exemple, à partir d'un établissement ecclésiastique, Dublin. Et derrière, ça va être, de par sa situation géographique, une économie de piratage et de domination agricole avec des grands latifundias qui vont conduire les grands barons anglais à coloniser avec plus ou moins de succès ce territoire tout au long du Moyen-Âge. Alors, les revendications et les aspirations nationales et d'autodétermination du peuple irlandais, elles vont apparaître au cours du XVIIIe siècle et elles vont prendre une réelle force, une première, en quelque sorte, formalisation au début des années 1780. Avec un certain Henri Grattan, qui justement était un des chefs de file du mouvement intitulé alors le Mouvement des Patriotes. Alors ce bonhomme, il avait fait campagne, donc on dit faire campagne à l'époque, c'est sabre au poing, pour l'indépendance législative de l'Irlande et l'émancipation des élites protestantes comme catholiques. Puisque, vous le savez sûrement, il y a un grand problème d'opposition communautaire et religieuse en Irlande entre les protestants et les catholiques. C'est ce qui a d'ailleurs permis au poète William Yeats de nous dire, excusez-moi pour l'accent, « Red hatred, little room, may made us at the start ». Ce qui traduit donne « Trop de haine, peu de place, nous avait mutilés d'emblée ». Et les Irlandes, effectivement, c'est quand même une histoire de baston et de division où un peuple opprimé a du mal justement à se réunir pour résister à l'oppression. Donc ce Henri Grattan, il était tout à fait dans l'esprit de l'époque, l'esprit des Lumières, avec l'émergence de la bourgeoisie et l'émergence du nationalisme. Et ils essayent de faire, comme aux États-Unis, comme un peu partout, une révolution bourgeoise, qui va aboutir en 1783. Et le Parlement de Westminster de l'époque renonce à la souveraineté législative sur l'Irlande et va même jusqu'à ratifier une déclaration d'indépendance. Donc ce Parlement de Grattan, qui était chef du mouvement des Patriotes, se met à siéger à College Green, qui sera le futur siège de la Banque d'Irlande. Et vu que c'est une révolution bourgeoise, évidemment, la Bourse de Dublin va être créée assez rapidement derrière, en 1797. Alors, à cette époque, il y a pas mal de militants, comme par exemple Wolf Tone, un héros local, qui veulent aller beaucoup plus loin et mettre en place un républicanisme nationaliste à la française, liberté, égalité, fraternité. Alors, ce Wolf Tone, qui va évidemment être pourchassé par l'Angleterre et les élites qu'elle finance, il va être contraint à l'exil et aller voir les révolutionnaires qui réussissent le mieux à l'époque, à savoir les Français, qui sont en pleine réaction bourgeoise, en plein massacre de sans-culottes avec le directoire. Et un certain général Hoche va trouver l'occasion d'affaiblir les ennemis anglais et va dépêcher 15 000 hommes, ce qui est beaucoup à l'époque, et qui vont être répartis sur 43 navires pour justement provoquer une révolution irlandaise et aider la France dans ses velléités nationalistes. Mais une grosse tempête, et comme on le sait, les marins français, c'est pas les meilleurs du monde, donc tout le monde rentre à Brest au bout d'une semaine, sauf les noyés évidemment, qui sont dans le ventre des poissons. Rebelote en 1798, les Français du général Humbert vont rééditer et vont aider des rebelles irlandais à créer une éphémère république du Connaught, qui va durer, accrochez-vous, 2 semaines. Donc les Français s'enfuient, et les Irlandais qui avaient cru en eux sont massacrés. Alors en 1798, encore une fois, les Irlandais vont essayer de se battre pour obtenir une patrie. Il va y avoir une rébellion, soutenue encore par les Français et Vofton, et qui cette fois va produire 60 000 morts, mais kiff kiff, 30 000 Irlandais et 30 000 des armées anglaises. Ce qui en fait leur plus grande victoire, parce que jusqu'à aujourd'hui, derrière dans la confrontation, ça va être beaucoup moins rigolo. Alors ce Vofton, qui va être capturé suite à cette bataille à la Pyrrhus, va être traduit en cour martiale. Mais héroïquement, il va se trancher la gorge pour ne pas avoir à rendre des comptes à ses oppresseurs. Alors, ce qui derrière avait permis de calmer les Irlandais, c'était des promesses, comme toujours, et notamment qu'on émanciperait les catholiques et qu'on leur permettrait la tolérance confessionnelle. Alors, le premier ministre de l'époque, William Pitt, qui est très célèbre, puisqu'il a fait la grandeur de l'impérialisme anglais, eh bien, il obtient en 1800 la loi dite Acte d'Union, qui abolit totalement le Parlement d'Irlande et revient sur les promesses de l'émancipation des catholiques. Donc derrière, évidemment, les Irlandais sont très déçus. Et par exemple, le surnommé libérateur Daniel O'Connell va réunir la frustration des catholiques irlandais et qui va pouvoir s'exprimer dans l'association catholique. Donc là, la lutte pour les droits civiques au départ devient franchement nationalisme, et ce nationalisme devient catholique. Donc du coup, l'Église, elle se joint aux réformateurs de l'époque, et l'Angleterre commence à négocier une certaine émancipation confessionnelle en échange d'un suffrage extrêmement censitaire et de solides garanties à la bourgeoisie anglaise. Donc là, on accepte la liberté confessionnelle si, en échange, le peuple est pieds et poings liés à la bourgeoisie locale qui est le relais de la bourgeoisie anglaise. Donc devant cet échec total de la population irlandaise pour s'émanciper de la tutelle colonialiste anglaise, eh ben on va avoir plus à gauche des gens qui vont émerger, comme par exemple le très célèbre poète Thomas Davis, qui va promouvoir cette fois-ci non pas seulement l'indépendance, mais également la culture gaélique, et qui va créer, avec d'autres, un mouvement très célèbre qui s'appelle Jeune Irlande. Donc il faut savoir que l'époque, elle est très propice au nationalisme, qui à l'époque est progressiste.
En tant que modérateur, je vais vous dire de vous grouiller, parce qu'on est super à la bourre, et il va falloir se grouiller.
D'accord. Merci. Donc du coup, ce Thomas Davis et la Jeune Irlande, en 48, ils vont aller chercher de l'aide à Paris pour chercher des appuis, mais un certain Lamartine, un traître, ne veut pas s'en mêler. Donc tout ce que vont rapporter ces jeunes Irlandais de Paris, ça va être un drapeau tricolore, vert, blanc et orange, et il faudra attendre un paquet d'années avant de le voir flotter sur un bâtiment irlandais. Les révolutionnaires et indépendantistes alors se font massacrer suite à ce lâchage de la communauté révolutionnaire internationale, et c'est aux USA que la résistance va s'organiser avec le IRB, l'Irish Revolutionary, mais j'ai oublié le B. Et du fait de la répression anglaise et de la grande famine qui va pousser beaucoup d'Irlandais à émigrer massivement, et ben c'est aux États-Unis que la résistance va faire. Par exemple, en 1855, 2/3 des New-Yorkais sont irlandais. Donc cette grande famine, malheureusement, j'ai pas le temps d'insister, mais ça va être le milieu sur les patates, et ça va être une époque de désolation terrible.
C'est une des plus terribles famines du 19e.
Voilà. Ouais. Faut savoir que en 1850, on a 8 millions d'habitants en Irlande, en 2011, on en a 4. Donc c'était un monde plein, et quand la principale source d'alimentation, la patate, ça commence à disparaître, et qu'on a derrière tous les Anglais qui voient ça comme une formidable opportunité pour virer tout le monde, eh ben ça fait une catastrophe terrible. Donc ensuite, derrière, traumatisme, c'est très dur pour le prolétariat irlandais et l'affaire de la jeunesse de se révolter. Et surtout, ils sont étroitement associés à l'impérialisme anglais de la reine Victoria, qui va s'y rendre en 1900 pour recruter des soldats dans la guerre des Boers. Donc il va y avoir des tentatives parlementaires et d'un nationalisme pacifique. Mais en 1900, très vite, l'IRB comprend que c'est soit l'intégration à l'impérialisme anglais et fournir des soldats, soit la répression. Donc il y a un parti qui va se créer, infiltré par l'IRB, le Sinn Féin, qui veut dire « nous seuls », et qui va promouvoir une lutte beaucoup plus déterminée.
Oui, le Sinn Féin, c'est aussi la frange nationaliste de la bourgeoisie irlandaise, hein, mais ça, on va y venir. Alors du coup, nous voilà, après cette introduction, à la première IRA, IRA, Irish Republican Army, hein, puisque là, on est le 10 avril et c'est bien l'anniversaire de cet accord entre l'IRA et le gouvernement britannique de 98. Mais il y a eu plusieurs IRA. Donc la toute première, elle est créée en 1919 par la fusion de l'Irish Citizen Army et des Irish Volunteers, qui sont d'un côté une milice d'autodéfense ouvrière irlandaise créée en novembre 1913 par un certain, et quand même très connu, James Connolly, qui est un marxiste, un révolutionnaire et un syndicaliste irlandais, notamment, ainsi que James Larkin. D'ailleurs, le 26 août 1913, éclate une grève générale à Dublin, menée par le syndicat du transport, dirigé à l'époque par Connolly. Ce mouvement, qui dure jusqu'en février 1914, est durement réprimé. À la suite de ce mouvement, l'ICA, donc l'Irish Citizen Army, une milice, hein, est créée avec deux objectifs: protéger le mouvement ouvrier et préparer la révolution socialiste et nationale. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a une brigade non mixte féminine qui est créée chez l'ICA, et c'est assez peu fréquent à cette époque-là. L'autre, les Irish Volunteers, sont plutôt nationalistes, hein, et ils fonctionnent de 1913 à 1919, et leur but, c'est de défendre le projet de loi Home Rule, autonomie interne, et combattre les milices unionistes. Alors, il y a quelque chose qui est très connu pour les Irlandais, c'est l'insurrection de Pâques en 1916 à Dublin, qui est menée à la fois donc par l'ICA et l'Irish Volunteers, qui déclarent le jour même l'indépendance de l'Irlande. Mais en 1916, on est en plein dans la Première Guerre mondiale, et nombreux sont les Irlandais partis dans l'armée britannique combattre en France. Et l'insurrection ne se répand pas comme une traînée de poudre dans toute l'Irlande. Pendant 6 jours, les combats de rue font rage dans Dublin, entre insurgés et troupes britanniques, c'est-à-dire 2500 personnes contre 750, qui, malgré donc la Première Guerre mondiale, les troupes britanniques restent bien plus puissantes que l'insurrection armée. Et cette insurrection doit signer la reddition fin avril, donc 1916. Bilan: 400 morts, des milliers de blessés, une répression implacable, des milliers d'hommes arrêtés, plus de 5000 si on comptabilise des poursuites en Angleterre et au Pays de Galles. Les dirigeants sont jugés par cour martiale et il y a des condamnations à mort, dont les dirigeants Connolly et Patrick Pearse. Mais ce qui apparaît comme une défaite à cette époque devient, dans les faits, et c'est ce qu'espéraient Pearse et Connolly, le détonateur d'une gigantesque déflagration sociale et nationale. L'IRA, Irish Republican Army, vient de naître. La guerre de libération de 1916-1921 devient une intense guérilla entre l'IRA d'une part et la police royale irlandaise, l'armée britannique, les anciens militaires britanniques recrutés pour l'occasion et les loyalistes. Entre 1916 et 1919, plusieurs manifestations ont lieu en Irlande contre la conscription. La conscription s'est imposée aux Irlandais, hein, de rentrer dans l'armée pour aller combattre pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, ces manifestations, notamment en 1918, elles sont durement réprimées. Il y a des nombreux morts côté irlandais, des milliers d'arrestations. En 1918, c'est aussi l'année où le Sinn Féin rafle des élections et réaffirme la déclaration d'indépendance de 1916 et fonde une sorte de parlement irlandais, le Dáil. C'est également l'année où l'IRA attaque des casernes pour voler des armes. Le jour où le Dáil se réunit pour la première fois en 1919, le 21 janvier, plusieurs membres de l'IRA abattent 2 officiers de la police royale irlandaise, et c'est l'acte déclencheur, ou c'est considéré comme l'acte déclencheur, de la guerre d'indépendance. À partir de 1919, l'IRA attaque des bâtiments de gouvernement britannique, mène des raids pour désarmer de l'argent et abat des membres influents de l'administration britannique. Puis vient la phase du harcèlement de la RIC, donc la police irlandaise protestante soumise aux Britanniques, et en parallèle de puissants mouvements de grève organisés par les ouvriers qui sont déclenchés pour handicaper l'économie britannique. Donc on a toujours bien un versant très social dans cette guerre d'indépendance et très révolutionnaire. La campagne anti-RIC, donc la police irlandaise, fonctionne et la RIC déserte les campagnes au profit de l'IRA et sont placées sous l'autorité du tout nouveau Parlement irlandais. En réponse, les Black and Tans et les RIC, donc les militaires et les policiers irlandais, saccagent les villages sur leur chemin. Ils tuent, torturent, violent, pillent, incendient. Ces actions censées intimider les révolutionnaires à l'effet inverse. L'IRA gonfle ses rangs et les actions sont de plus en plus redoutables. Quant aux Britanniques, ils veulent écraser l'IRA et commettre de plus en plus d'exactions. Le 21 novembre 1920, ils tirent à l'aide d'un char d'assaut sur une foule qui assiste à un match gaélique à Croke Park, 14 morts. C'est le premier Bloody Sunday, car il y en aura d'autres. À la fin de 1921, la guérilla de l'IRA est plus que jamais puissante. Les Britanniques sont dans un gouffre financier sans fond et entament la négociation diplomatique, aboutissant au traité anglo-irlandais en décembre 1921. Mais ce traité divise l'Irlande, c'est là que l'Irlande est divisée en deux. Au nord, 6 comtés à majorité protestante et au sud, 26 comtés catholiques. Ce traité, eh bien, il va diviser les nationalistes et les révolutionnaires, ceux qui sont pro-traités, ceux qui sont anti-traités, qui veulent une Irlande une et indivisible et unique et pas de division. C'est le début de la guerre civile d'Irlande. Si les combats s'arrêtent au sud, au nord, les violences et les combats s'intensifient entre unionistes et indépendantistes, notamment à Belfast. Combats de rue, assassinats, bombes. Le 22 mai 1922, après l'assassinat d'un politicien unioniste, 350 membres de l'IRA sont arrêtés à Belfast, décapitant l'organisation dans la ville, et l'armée britannique n'hésite plus à utiliser à plusieurs reprises l'artillerie lourde au nord pour mater l'IRA, finissant d'user cette dernière en 1923. Et la prochaine IRA, celle qui renaîtra un peu de ses cendres, eh bien elle arrivera un petit peu plus tard.
Voilà, parce que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que il y a en quelque sorte une adéquation systématique entre la question sociale avec une partie de la population qui ne bénéficie pas de la colonisation anglaise, et de l'autre, l'opposition entre les catholiques, qui sont évidemment les plus pauvres généralement en Irlande, et les protestants de l'autre, qui sont affiliés justement à la puissance colonisatrice. Alors, avec la partition de l'Irlande entre la République d'Irlande, qui deviendra l'air ensuite, et l'Irlande du Nord, inféodée au pouvoir colonial, dans les années 20, dans les années 30, 40 et 50, ça va être deux destins finalement qui se séparent. Et on a ce que connaissent tous les peuples qui sont divisés par des murs, par des frontières, hein, que ce soit la Corée, que ce soit la Palestine, l'Allemagne pendant un moment, on va avoir des problématiques similaires. Donc de 1924 au début des années 60, la République irlandaise, donc celle qui a accueilli qui a obtenu son indépendance, ça reste le bordel. On a une réorganisation de l'armée avec des mutineries et c'est une période de division justement autour de la question de l'Irlande du Nord. Il y en a qui veulent lâcher, faire un destin commun et abandonner le reste aux Anglais, et il y en a comme l'IRA qui ne se résolvent pas à abandonner leurs frères d'armes et les catholiques sous l'oppression anglaise et protestante. Donc en 1931, on va avoir justement l'IRA qui est banni de l'État libre, donc la division du mouvement qui est consommée. Et un certain De Valera, en 1932, va prendre le pouvoir en Irlande et va réussir quand même à faire progresser la question sociale. Donc en 1937, malheureusement, l'État libre il disparaît et il est remplacé par la constitution de l'air qui est adoptée. En 1939, l'IRA lance une grande campagne d'attentats à la bombe en Grande-Bretagne, justement pour accuser la question. Et de son côté, De Valera obtient la neutralité de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'empêchera pas les bombardements, parce que économiquement, c'est quand même extrêmement stratégique pour l'Angleterre. Donc si on veut attaquer l'Angleterre, il faut attaquer l'Irlande. Donc du coup, on a des grévistes de la faim, par exemple, en 1940, qui décèdent, puisqu'ils ont mené leur lutte jusqu'au bout, et surtout sans trop de succès, puisque en 1949, l'Ireland Act va perpétuer la partition entre l'Irlande dite du Sud et celle du Nord. Donc dans les années 50 et 60, si la République d'Irlande elle est admise aux Nations Unies et qu'on a une reconnaissance des luttes traditionnelles et indépendantistes des Irlandais, malheureusement cornaqué par la bourgeoisie locale, comme ça se fait à chaque fois quand il est question de patrie ou de nation, la question de l'Irlande du Nord n'est toujours pas réglée. À ça viennent s'ajouter des difficultés économiques terribles, avec une émigration terrible qui reprend aussi. Et au cours des années 60, également en connivence avec les mouvements européens d'émancipation et de prise de conscience d'une partie de la jeunesse, eh ben, ça va rebouger. Et en Irlande du Nord, des combats de rue vont reprendre.
On arrive donc en 1968, année hein, où il se passe beaucoup de choses dans un certain nombre de pays, et de nouveaux mouvements de contestation d'ampleur frappent la communauté catholique de l'Irlande du Nord. Et pour cause, Ségrégation et discrimination systématique instituée par la majorité protestante unioniste sont le lot quotidien des catholiques. Hein. La majorité protestante, elle possède la grande majorité des moyens de production. Les catholiques subissent des discriminations énormes dans l'accès au logement. Hein, ils sont parqués dans des véritables ghettos. Des discriminations à l'emploi, bien sûr, dans les découpages électoraux, dans la rue, au niveau de la justice, au niveau de la police. Les discriminations sont continues.
Une ségrégation.
Une ségrégation. Ces mouvements de 68 ont pour but d'y mettre fin. Mais le courant unioniste ne compte pas se laisser faire et perdre ses privilèges et avantages aussi facilement, et les manifs sont interdites et violemment réprimées. En 1969, des loyalistes de l'Ulster Volunteers Force commettent de nombreux actes de violence anticatholique. Ces actes d'ailleurs ont souvent été mis sur le dos de l'IRA. Or, c'est bien les unionistes qui ont finalement lancé un peu la déclaration de guerre. À l'été 69, de violentes émeutes opposent catholiques et protestants et secouent l'Irlande du Nord. Or, en 1969, l'IRA historique est quelque peu moribonde. Une minorité de l'IRA décide alors de s'organiser et scissionne pour fonder l'IRA provisoire avec trois objectifs. Préparer la défense des ghettos catholiques contre les attaques des unionistes, riposter en cas d'agression de la police britannique et son armée, et enfin préparer une future offensive visant à mettre fin à la présence britannique en Irlande du Nord. Rien que ça. Alors, soutenu par une partie de la population catholique d'Irlande du Nord, l'IRA provisoire multiplie les opérations de guérilla rurale et urbaine en 1971 et 1972. Elle tisse des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine, le TA dont on a parlé par exemple. Le 30 janvier 1972, le premier bataillon de l'armée britannique tire sur une manifestation, une marche même pacifiste non armée, demandant plus de droits civiques pour les catholiques d'Irlande du Nord. C'est le fameux Sunday, Bloody Sunday, 14 morts. Il y a une répression très importante dans les années 72, 73, 74 et en parallèle une extension des actions de l'IRA avec de nombreux attentats à l'explosif. Donc une grosse répression, puis une trêve. Mais c'est aussi le début des grèves de prisonniers de l'IRA, puisque les prisonniers de l'IRA sont des prisonniers qui sont particulièrement, qui subissent l'administration pénitentiaire britannique. Ils se font tabasser, affamer, leurs conditions carcérales sont vraiment terribles, et donc ils mettent en place des grèves de la faim de 1973 à 1976, et même des grèves de la faim et de la propreté, de l'hygiène à partir de 1978. Et au début des années 80, au moins 500 prisonniers participent d'ailleurs. On vous conseille un film, c'est le film Hunger là-dessus, si vous voulez voir et en savoir un peu plus sur ces grèves de prisonniers irlandais, qui est très très bien. Et évidemment, dans les années 80, une certaine Thatcher, intransigeante et qui ne veut rien laisser passer, eh bien, refuse les revendications et laisse mourir des prisonniers irlandais dans les geôles, hein, et fait provoquer de nouvelles attaques à la bombe de l'IRA provisoire.
Voilà. Alors, cette IRA provisoire, justement, elle a désarmé. Suite aux accords dits du Vendredi Saint qui ont eu lieu le 10 avril 1998 et dont nous célébrons pas l'anniversaire.
Non, ça nous permet juste de retracer l'histoire un peu de cette fameuse IRA et de l'Irlande.
Parce que encore une fois, ces accords, malheureusement, ils actent un statu quo qui fait qu'on a un pays qui est encore divisé, un pays qui a une unité géographique, une unité historique et culturelle, et qui est encore